Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 2. Celle qui était devenue la supérieure de l'hospice, réservée aux folles et aux filles perdues, était bien réellement, et dans la plus large acceptation de ces mots, une sainte femme. Née à la Salpêtrière, jamais elle n'en était sortie. Un jour, on avait amené dans cette prison, à la suite d'une rafle opérée dans les bas quartiers de Paris, toute une bande de prostituées et de voleurs que la police pourchassait depuis longtemps. Parmi ces misérables créatures, il en était une qui assumait les charges les plus graves. Voleuse endurcie, elle avait été signalée comme une récidiviste dangereuse et son entrée à la Salpêtrière avait fait événement parmi les détenus qui, connaissant son audace et son habileté à se soustraire aux recherches, s'étonnaient qu'elle se fût laissée prendre. « C'est la fileuse !» s'était écriée une ancienne complice de la prisonnière. « Qu'est-ce que la fileuse ? » avait-on demandé. « La fileuse, mes petites filles, » avait repris la détenue, « pourrait nous en remontrer à toutes, tant que nous sommes ici. Une fine mouche qui glisse dans les doigts des agents quand elle veut. Pour dévaliser une maison, il n'y avait pas sa pareille. Elle avait la spécialité de se présenter comme servante à tout faire chez des logeurs à la nuit. D'abord, faut être juste, elle travaillait comme un cheval. Il n'y avait pas de coin qu'elle ne passât par le balai. Ça reluisait partout. Seulement, la matine ne perdait pas son temps. Le lendemain, elle faisait un paquet de tout ce qu'elle pouvait rassembler des bagages des voyageurs. Et la fileuse filait. Un éclat de rire ayant accueilli cette plaisanterie, les détenues avaient toutes voulu voir de près la célèbre voleuse. On l'admirait et c'était à qui, parmi toutes ces misérables filles, deviendrait sa camarade préférée. Par contre, le lieutenant criminel avait jugé que ce serait une excellente recrue pour la Louisiane. Et le jugement rendu contre elle portait qu'elle ferait partie d'un des plus prochains convois qu'on dirigerait sur la Nouvelle-Orléans. La fileuse s'attendait à être déportée. L'annonce de son prochain départ ne produisit qu'un médiocre effet sur elle. « Faudra qu'on se dépêche, par exemple, » fit-elle en riant. Si l'on ne veut pas qu'à bord j'ai le mal de mer. » On ne devait pas tarder à avoir l'explication de cette phrase qui visait à la plaisanterie. En effet, le jour où l'officier de police apporta l'ordre du départ des déportés, la fileuse déclara qu'elle allait sous peu devenir mère. Le médecin appelé, s'étonnant que la prisonnière eût pu dissimuler jusque-là sa grossesse avancée, la malheureuse avoua qu'elle se serrait dans l'espoir de faire avorter l'enfant qu'elle portait dans son sein. « C'est pas la peine, » avait-elle dit, « de mettre au monde de la graine pour la Louisiane. » « Oui, » ajoutait-elle, « mieux valait que le pauvre enfant mourût plutôt que d'être le rejeton d'une voleuse. » Les religieuses avaient cru saisir dans cette phrase comme un sentiment du repentir qui naissait dans le cœur de cette coupable endurcie. Elles firent part de leur découverte à la supérieure qui sollicita pour la prisonnière une commutation de peine. Elle obtint que la fileuse resterait à la Salpêtrière. À partir de ce jour, la détenue devint sombre et triste. Elle évitait de se rencontrer avec les autres prisonnières. Le moment approchait où il fallut l'admettre à l'infirmerie. Elle y était depuis 2 jours à peine lorsqu'elle mit au monde une fille. L'enfant fut aussitôt recueilli, choyé par toutes les religieuses. L'une de ces saintes filles demanda comme une faveur d'être autorisée à servir de marraine à la fille de la prisonnière. C'est ainsi que l'enfant de la fileuse reçut sur les fonts baptismaux le prénom de Geneviève. Le jour de la cérémonie du baptême fut pour tout le monde, religieuses, surveillantes et détenues, l'occasion d'une touchante manifestation. L'église avait été ornée de fleurs, comme au jour des fêtes religieuses. Les détenus étaient venus sur 2 rangs, s'agenouiller sur les dalles, faisant ainsi la haie depuis le portique jusqu'à la chapelle, transformée pour la circonstance en chapelle baptismale. Lorsque le cortège parut, la supérieure en tête et les religieuses ouvrant et fermant la marche, l'orgue préluda et toutes les voix entonnèrent l'hymne sacré. Puis, la cérémonie terminée, l'aumônier monta en chaire et prononça un sermon qui émotionna vivement l'assistance. Les détenues se montrèrent ce jour-là très recueillies, comme si elles eussent compris tout ce qu'il y avait d'imposant dans cette cérémonie si inusitée en pareil lieu. Mais une surprise étrange attendaient les bonnes sœurs lorsqu'elles ramenèrent la petite Geneviève à sa mère. La fileuse, lorsqu'on voulut lui mettre dans les bras l'enfant qu'elle devait allaiter, refusa de lui donner le sein. « Non, » dit-elle au milieu des larmes qui inondaient son visage et altéraient sa voix. « Il faut que cet ange reste pur de toute souillure. Elle ne boira pas le lait d'une créature infâme. » Ni les bonnes paroles des religieuses, ni l'insistance de la supérieure, ne purent avoir raison de l'énergique détermination de la détenue. La petite Geneviève dut être élevée au biberon, et c'est sa marraine qui voulut se charger des soins à lui donner. Plus tard, lorsque la fileuse, relevée de ses couches, fut autorisée à ne s'occuper que de son enfant, elle refusa d'être dispensée du travail de la prison, disant que ses mains impures ne devaient plus jamais être en contact avec l'innocente créature. Tout le monde comprit que cette malheureuse s'imposait là un châtiment au-dessus des forces d'une mère. Aussi ne s'étonna-t-on pas de voir la fileuse dépérir rapidement. Elle se surmenait à travailler, refusant de se reposer même pendant les heures de récréation. Alors que ses co-détenus se promenaient par groupes dans les cours, on la voyait toujours seule, ou bien elle aidait les surveillantes dans leurs plus rudes travaux. On eût dit qu'elle cherchait à succomber à la peine. La nuit, on l'entendait gémir et murmurer des paroles incohérentes. Mais dès qu'elle se sentait observée et surveillée, la fileuse étouffait ses sanglots, dévorait ses larmes et demeurait immobile aux prises avec l'insomnie. Elle s'imposa, malgré un dépérissement de plus en plus accusé, des fatigues qui la minaient, des privations qui l'épuisaient. Un jour, elle alla trouver la supérieure et la supplia d'obtenir qu'elle fût envoyée à la Louisiade. Elle alléguait pour motif qu'elle voulait que sa fille ignorât toujours qu'elle devait la vie à une mère infâme, et elle ajoutait « Lorsque j'étais dans les douleurs de l'enfantement, j'ai fait un vœu sacré. En souvenir de mes fautes passées et du crime odieux que j'avais commis, lorsque je cherchais à étouffer ma fille dans mon sein, j'ai juré, pour me punir de ce crime, que jamais je ne dévoilerai à l'enfant le secret de sa naissance, que jamais, enfin, je ne lui dirai que je suis sa mère. » La petite Geneviève grandit. Bientôt, elle sera en âge de comprendre, et il ne faut pas qu'elle puisse rougir du honteux passé de sa mère. Obtenez donc que je parte bientôt. » La religieuse, émue, refusa de se rendre au désir de la détenue. Tout ce qu'elle consentit à lui promettre, c'est qu'on laisserait ignorer à Geneviève le secret de sa naissance. « Je donnerai des ordres pour cela, » avait affirmé la supérieure, « et je vous certifie que personne ici ne les enfreindra. » La petite Geneviève était devenue l'enfant gâté de tout le monde dans cette prison. Sa jeune intelligence se développant, elle avait interrogé. Personne ne lui avait dévoilé la vérité. La fileuse se tenait à l'écart lorsque l'enfant faisait mine de s'approcher d'elle. Elle avait peur qu'elle l'interrogeât à son tour, et jamais une caresse de ses mains, jamais un baiser de ses lèvres ne vint effleurer le visage de sa fille. Et cela dura ainsi pendant plusieurs années, sans que la détenue consentit à mettre un terme à ce supplice de tous les jours, de tous les instants. Geneviève arrivait à l'âge où elle devait faire sa première communion. L'approche de ce moment, qui marque dans la vie des enfants qu'on a élevés dans la foi, dicta à la détenue une terrible résolution. La fileuse, depuis quelques jours, affectait un calme d'esprit auquel elle n'avait pas habitué le personnel de la prison. On l'avait même vue parfois se dérider et sourire. La supérieure, prévenue de ce changement si inattendu, avait conçu l'espoir que la détenue finirait par s'amender. Elle l'avait fait appeler, un matin, et avec ménagement, lui avait demandé si elle ne désirerait pas assister à la première communion de sa fille. « Je le veux », avait répondu la fileuse sans sourciller. Puis, après un moment de silence, elle avait ajouté d'une voix hésitante. « Je voudrais aussi, afin d'être moins indigne d'assister à cette pieuse cérémonie, qu'il me fût permis de passer, jusqu'au jour de la communion de Geneviève, les nuits à l'infirmerie et de me consacrer au service des malades dangereusement atteintes. « C'est bien, » avait répondu la supérieure. « Je vais donner des ordres pour que votre désir soit satisfait. » La mère de Geneviève fut, dès le lendemain, envoyée à l'infirmerie, dans la salle des malades pour lesquels le docteur avait ordonné de longues frictions acernicales. Il fallait à la garde une patience sans bornes pour répondre à tous les appels de ces pauvres malades. La fileuse s'était montrée à la hauteur de la tâche qu'elle s'était imposée. Enfin, l'avant-veille du grand événement religieux, comme elle avait passé de longues heures au chevet d'une malheureuse patiente, Elle dut se rendre auprès de la sœur qui distribuait les médicaments pour renouveler sa provision de pommade arsenicale. « Je n'en ai plus, » avait répondu la sœur. « Mais attendez, nous allons en fabriquer, et vous m'aiderez. »« Tenez, » ajouta-t-elle en indiquant un bocal étiqueté. « Voici l'arsenic. Apportez-le-moi, je vous prie. » La fileuse avait obéi. Mais en saisissant le bocal, elle y avait plongé sa main à la dérobée et pris une poignée d'arsenic qu'elle avait fait disparaître dans la poche de son tablier. Tout cela s'était accompli si rapidement que la sœur ne s'était aperçue de rien. L'opération terminée, la détenue était retournée à l'infirmerie. Le lendemain, il se fit un grand bruit dans la salle où se trouvait la fileuse. Les surveillantes s'empressaient auprès de la prisonnière, qui se tordait dans d'effroyables convulsions et dont le visage portait déjà l'empreinte de la mort. On interrogea la malheureuse qui râlait, mais elle ne répondit que ces mots. « Par pitié, suppliez de ma part la supérieure de vouloir bien se rendre auprès de moi. » La religieuse, prévenue de ce qui se passait, était accourue aussitôt. Au premier coup d'œil qu'elle jeta sur le visage de la malade, elle reconnut les symptômes de l'empoisonnement. La fileuse allait d'ailleurs lui confesser la vérité. « Ma mère, » murmura-t-elle d'une voix éteinte, « j'étais sur cette terre un perpétuel danger pour la chère enfant que je recommande à votre charité. Tôt ou tard, elle eût appris la triste vérité que vous avez bien voulu m'aider à lui cacher. Eh bien, cela ne sera pas. Elle n'aura jamais à rougir de sa mère, jamais. » « Malheureuse, » fit la supérieure en baissant la voix, « vous avez attenté à vos jours. » La fileuse poussa un soupir et ses yeux s'ouvrirent tout grands avec une expression d'angoisse. Elle voulut prononcer quelques mots, mais sa voix s'éteignait. Elle fit un violent effort, et les bras tordus par les convulsions, elle parvint à arracher un cri de sa gorge en feu. Un cri terrible qui s'acheva dans ce nom, Geneviève. Elle agonisait, et en ce moment suprême, l'amour maternel dominait en elle la résolution prise et tenue jusque-là avec tant de courage et de résignation. Un dernier éclair de vie illumina ses yeux déjà voilés. Les râles s'arrêtèrent pendant une seconde. Et la moribonde, se redressant, tendit les mains dans le vide en criant « Geneviève, Geneviève, Geneviève !» Tout à coup, du fond du couloir, s'élancèrent deux personnes, la marraine de l'enfant entraînant sa filleule. Prévenue par les surveillantes, elle avait voulu que le dernier vœu de la mourante fût exaucé. Poussant Geneviève dans les bras de l'agonisante, elle s'écria en tombant à genoux à côté de la supérieure, déjà prosternée et priant. « Embrasse cette pauvre femme, Geneviève, embrasse-la, car elle t'a bien aimée. » La fileuse avait refermé les bras sur sa fille, qui, troublée et saisie, s'était jetée sur son sein haletant. Et effleurant de ses lèvres livides les joues de l'enfant, elle lui dit « Je suis une grande coupable, Geneviève, mais on vous a dit vrai. Je vous ai aimée, bien aimée. Priez pour moi, comme vous auriez prié pour votre... » Ce furent ses dernières paroles. Ses bras se détendirent, sa tête pâle se renversa. Elle était morte. Geneviève était tombée à genoux. « Oui, oui, » dit-elle d'une voix qui étouffait les sanglots, « je prierai pour vous. » Et se relevant, elle ajouta, « je prierai pour toi, ma mère. » Elle avait deviné la vérité. « Je prierai pour toi, » dit-elle, « pendant toute ma vie et jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de nous réunir au ciel. » Le surlendemain, tandis que la communiante, agenouillée à l'autel, recevait l'hostie sainte, le cercueil de la fileuse quittait l'infirmerie de la Salpêtrière et se dirigeait vers le champ du repos. Geneviève allait être appelée bientôt à faire choix d'un métier. Sa marraine prit le parti de l'interroger à ce sujet. À la nouvelle qu'on se disposait à la mettre en apprentissage, la fillette manifesta un véritable chagrin. Elle supplia qu'on voulût bien la garder dans la maison de détention. Elle ferait tout l'ouvrage qu'on lui imposerait et se préparerait à prendre plus tard le voile. La supérieure consentit à ce qu'elle fît une sorte de noviciat, afin de s'assurer que la vocation de Geneviève persisterait avec l'âge. La fille de la fileuse ne se démentit pas un seul instant. Jamais on ne vit se manifester en elle la moindre défaillance, quelque dur service qu'on exigeât d'elle. Son intelligence s'était développée rapidement. À 16 ans, elle put passer des examens qui lui méritèrent les plus grands éloges. mais c'était surtout par une charité exemplaire, par un dévouement sans bornes pour les malades, que la jeune fille se distingua. On la trouvait toujours au chevet de celles qui souffraient, empressée à leur prodiguer les soins les plus intelligents, les plus assidus. Et comme souvent elle se surmenait, la supérieure la gourmandait d'un ton maternel. Mais à ses doux reproches, Geneviève répondait avec un mélancolique sourire. « Tant que la force ne m'abandonnera pas, je consacrerai mon existence à ceux qui ont besoin d'être secourus. Et ce n'est pas vous, ô Sainte Mère, qui pourrez me blâmer, vous qui avez initié mon esprit au devoir que nous avons à remplir envers nos semblables. Vous qui m'avez donné l'exemple de ce dévouement qui ne se dément jamais, que tout le monde admire et qui vous élève au rang des bienheureuses. » Et c'est au milieu de ces pieuses pensées que Geneviève vit arriver l'heure où elle fut admise à prendre le voile. Pendant de longues années, sœur Geneviève fut la consolatrice des malheureux qui entraient à la Salpêtrière. Une terrible épidémie, la petite vérole noire, sévissait dans Paris. Les morts se comptaient chaque jour par centaines. La terreur avait envahi la population au point que lorsqu'un cas se déclarait dans une maison, tous les locataires s'enfuyaient affolés, refusant tout secours aux malades, qui, la plupart du temps, mouraient faute de soins. Le fléau fit subitement son apparition à la Salpêtrière. Les détenus qui se trouvaient déjà à l'infirmerie furent les premières atteintes. En une seule nuit, 5 malades avaient rendu le dernier soupir. Les surveillantes, terrifiées, voulaient abandonner leur poste, et parmi les religieuses qui se proposèrent pour les suppléer, plusieurs succombèrent, foudroyées par le mal. Il y eut d'horribles agonies, bien faites pour jeter l'épouvante dans toute la prison. Sœur Geneviève se multipliait pour remplacer celles de ses compagnes qui tombaient sur le champ d'honneur de la sœur de charité. On la voyait au chevet des malades, consolant les agonisantes, priant pour celles qui avaient succombé. Il arriva un moment où les plus courageuses hésitèrent. Une nuit, une détenue, atteinte par la hideuse maladie, devint folle sur le coup. Elle s'était arrachée de son lit, le visage tuméfié, les yeux injectés. Elle courait à travers la salle en hurlant, se déchirant les chairs de ses ongles, poursuivant les sœurs assistantes qui fuyaient épouvantées à son approche. Sœur Geneviève s'élança vers elle et, la prenant dans ses bras, lutta contre cette malheureuse afin de la ramener à son lit. Elle y parvint non sans avoir à plusieurs reprises collé son visage contre le visage hideux de la malade, pour l'exhorter à la patience et au calme. Lorsqu'elle l'eut replacée sur sa couche, elle s'étendit à côté d'elle afin de la maintenir immobile, et elle la tint ainsi dans ses bras comme eût fait une mère portant son enfant. À ce spectacle inouï, les religieuses et les surveillantes demeurèrent frappées de terreur et d'admiration. Toutes vinrent auprès de ce lit où s'accomplissait cet acte de sublime dévouement. Elles s'agenouillèrent, suppliant la sœur de ne pas s'exposer à une mort certaine. Mais Geneviève résista, prononçant ces mots d'une voix qui ne tremblait pas. « Si je succombe, quelle est celle d'entre vous qui maintenant refusera de me remplacer ?» Toutes s'approchèrent de la compagne qui leur donnait un si noble exemple. Un saint respect les tenait maintenant prosternées devant le lit où se passait cette scène émouvante. Elles ne songèrent plus aux dangers qu'elles couraient au milieu de cette atmosphère empestée. Elle n'avait plus peur. Sœur Geneviève ne fut pas atteinte. La mort la respecta comme si elle eût été marquée par la Providence. Quelques années plus tard, la supérieure s'éteignit avec toute la sérénité des âmes qui s'en retournent pures vers le Créateur. Avant de mourir, la digne religieuse voulut consacrer ses derniers instants à celle qu'elle avait jugée digne de la remplacer. Elle imposa ses mains sur le front de Sœur Geneviève, prosternée à son chevet, comme pour lui transmettre l'héritage sacré. « Je désire, ô ma fille, prononça-t-elle, que l'on vous permette de continuer ici l'œuvre que je laisse inachevée. Soyez, comme j'ai été tentée de l'être, la mère de ceux qui souffrent, la consolatrice de ceux qui pleurent. Je vous bénis, ma fille. » Le vœu de la mourante fut exaucé. Geneviève devint la supérieure des sœurs de charité de la Salpêtrière, de ce triste asile où se trouvaient entassées les malheureuses femmes atteintes de folie, les voleuses et les filles perdues. Du jour où Marianne avait été conduite à la Salpêtrière, la supérieure avait reconnu en elle une de ces créatures égarées qui peuvent être ramenées dans la bonne voie. Elle avait vu la détenue aux prises avec des accès de délire, pendant lesquels la malheureuse maudissait les misérables qui l'avaient entraînée dans le vice et dans le crime. Et sœur Geneviève avait conçu l'espoir de faire une repentie de plus. Elle l'avait recommandée d'une façon toute spéciale aux surveillantes qui ne tardèrent pas à faire sur son compte des rapports favorables. Marianne, en effet, s'était mise avec docilité à l'ouvrage. Sa conduite exemplaire lui valut la sympathie des surveillantes et les sarcasmes des prisonnières endurcies. Mais, indifférente aux quolibets de ces dernières, elle se rapprocha peu à peu de celles qui lui témoignaient de l'intérêt. On avait, comme cela se pratique dans les maisons de détention, voulu lui faire raconter son histoire. Mais elle avait répondu « J'ai trop à rougir de mon passé pour le raconter ici. » Parfois, elle s'isolait dans un coin du préau et pleurait amèrement au souvenir de ses fautes. C'est dans un de ces moments où, se croyant hors de la vue des surveillantes, elle se livrait à sa douleur, que la supérieure vint la surprendre. « Ne pleurez plus, mon enfant, lui dit sœur Geneviève. Ne désespérez pas. Votre repentir m'a touchée, et peut-être serez-vous bientôt l'objet d'une grâce que je sollicite en votre faveur. Peut-être obtiendrons-nous que vous ne soyez pas déporté à la Louisiane. Espérez donc, mon enfant, espérez. » Mais Marianne, profondément touchée de la douceur avec laquelle lui avait parlé sœur Geneviève, répondit « Hélas, ma sœur vénérée, s'il faut partir pour la Louisiane, je suis prête. Quel que soit le châtiment qu'on me réserve, il ne sera jamais assez sévère pour racheter les fautes que j'ai commises. » Et baissant les yeux, elle ajouta « J'ai été une créature indigne. J'ai manqué de courage pour m'arracher à l'existence honteuse dans laquelle je me suis laissée entraîner, où je me suis vautrée subissant l'influence d'un amour coupable. » Ces paroles, que dictait un repentir sincère, avaient ému la supérieure. Chaque jour, elle adressait à sa protégée un mot d'encouragement, un bienveillant sourire. Chaque jour aussi voyait Marianne plus empressée à bien faire, pour ne pas démériter aux yeux de sa protectrice. Il s'établit ainsi une sorte de lien entre la servante de Dieu et la pécheresse, l'une prêchant la morale, l'autre attentive aux exhortations et docile aux sages conseils. Sœur Geneviève avait conçu le projet d'intéresser de hauts personnages à la malheureuse dont le repentir l'avait profondément touchée. Elle voulut, dans ce but, employer l'intermédiaire du docteur qui avait obtenu le service de la salpêtrière. Le moment approchait où l'on allait venir prendre les condamnés à la déportation pour les conduire au port de départ. Deux fois par an, cette formalité mettait la supérieure de la salpêtrière à une bien dure épreuve. Elle se multipliait alors pour consoler les malheureuses qui allaient quitter leur pays pour n'y plus jamais revenir. Que de désespoir sœur Geneviève n'avait-elle pas apaisé par son éloquente intervention. Que de larmes n'avait-elle pas séchées, que de misère enfin n'avait-elle pas secouru dans ces moments si douloureux. La pensée que Marianne, elle aussi, subirait cette condamnation si cruelle affligeait le cœur de la supérieure. Elle mit tout en œuvre pour obtenir, en faveur de sa protégée, une commutation de peine. « Je suis certaine d'en faire un bon sujet, » affirmait-elle au docteur, « et qui servira d'exemple aux autres dans ce troupeau que je surveille. » Le docteur, nous le connaissons du reste déjà, c'était cet excellent homme qui donnait à la comtesse, sa noble cliente, de si paternels conseils. Le docteur avait promis de faire agir certaines influences, mais il n'avait pas caché à la supérieure combien c'était chose difficile d'obtenir une commutation de peine depuis que les délits et les crimes demandaient plus que jamais une répression sévère. Il se rappelait que le roi, s'étant montré très irrité des nombreux insuccès de la police dans la recherche des malfaiteurs, le lieutenant de police et les magistrats étaient devenus absolument inabordables lorsqu'on essayait de leur parler de grâce, même partielle. Le médecin de la salpêtrière n'avait rien négligé cependant pour complaire à sœur Geneviève, dont il était l'un des sincères admirateurs. Chaque fois qu'il se présentait à la prison, la supérieure l'interrogeait du regard. Mais elle ne tardait pas à lire sur la physionomie de son vieil ami que ses démarches n'avaient pas encore abouti. Cependant, le docteur ne désespérait pas, avait-il déclaré dernièrement, et il n'avait plus qu'à attendre encore quelques jours pour être définitivement fixé. C'est sur ces entrefaites, et pendant que la détenue que protégeait sœur Geneviève et le docteur attendaient sa grâce, que les courtisanes, qui avaient, ainsi qu'on l'a vu, assisté à l'orgie du pavillon du Bel Air, avaient été amenées à la salpêtrière. Ces malheureuses, tombées des hauteurs du luxe et de la grande coquetterie dans l'atelier d'une maison de détention, se lamentaient, maudissant leurs protecteurs oublieux auxquels elles s'étaient vainement adressées. « Que je suis malheureuse !» s'écriait un jour Florette, assise sur un banc de la grande cour et pleurant à chaudes larmes. Marianne s'était dirigée vers elle, lui avait pris la main, en murmurant à l'oreille de l'éplorée. « Ne vous désespérez pas ainsi, mademoiselle !» Mais l'ancienne courtisane avait répliqué, au milieu des sanglots qui l'étouffaient. « Je ne pourrai jamais me consoler de ce qui m'arrive. Non, jamais je ne pourrai me faire à cette existence de prisonnière. »« Essayez de travailler !» avait repris doucement Marianne. Et avec un soupir qui indiquait qu'elle avait, elle aussi, passé par là, le travail distrait et console, il fait oublier. Florette montrait alors ses mains à l'épiderme maintenu si tendre par l'emploi des cosmétiques, ses doigts si effilés et délicats. Et elle répondait « Travailler ? Cette grosse toile et ce gros fil me déchireraient les doigts. » « C'est vrai, vos petites mains ne sont pas habituées aux rudes travaux du pauvre. » Et lorsque Florette lui eut dit, répondant à sa phrase « Oh non, je n'étais pas habituée au travail. » La vie était pour moi si facile et si douce. Marianne murmura. Nous suivions des routes bien différentes. Les amis de Florette s'étaient rapprochés en voyant leur ancienne compagne de plaisir causant avec une détenue. Julie et Cora évoquèrent à leur tour le souvenir de leur passé de plaisir et de luxe. Elles se rappelaient combien elles avaient été heureuses. Elles, autrefois adulées, fêtées à l'égal des plus grandes dames de la cour et par les mêmes gentilshommes. Nous avions des robes de soie et de velours, surenchérirent Cora, Julie et deux autres anciennes marcheuses du corps de ballet de l'opéra. Moi, fit Marianne, j'avais une robe d'indienne que je portais en toute saison. Je sortais toujours en équipage, soupirait Florette. Et nous aussi. J'avais des laquais toujours à mes ordres. Moi, disait Julie, je possédais la plus jolie chaise de tout Paris, avec des miniatures et des glaces de Venise. Marianne regarda tristement ses interlocutrices qui énuméraient les faveurs dont elles avaient été l'objet de la part de la fortune. « Moi, fit-elle, j'allais à pied gagner ma journée. » Et comme les courtisanes s'étonnaient qu'une existence toute de travail eût abouti à une condamnation infamante, Marianne donna l'explication suivante. « Je me tuais à travailler pour un homme qui me battait et qui m'a forcé de devenir coupable. Et de toute cette misère, comme de tout votre luxe, que reste-t-il aujourd'hui ? Pour moi, le désespoir, affirma Florette. Pour nous, la honte, dirent en même temps Julie et Cora. Moi, j'ai le repentir, murmura Marianne. Florette continuait à se montrer la plus exaltée parmi ses compagnes de détention. Elle savait que les filles qu'on enfermait à la salpêtrière ne faisaient qu'y passer en attendant qu'on les envoyât peupler la Louisiane. Cette perspective l'épouvantait. Et dire, s'écriait-elle, qu'au premier jour, on va peut-être nous jeter dans une affreuse voiture, comme celle qui est déjà partie hier, escortée et poursuivie par les cris, les injures de la foule. Marianne avait tressailli malgré elle. Elle se souvenait, elle aussi, d'avoir entendu les hurlements du peuple qui escortait la voiture des déportés. Ces cris lui avaient glacé le sang dans les veines. « L'exil vous effraie ? » dit-elle d'une voix tremblante à la courtisane. « Je le crois bien. » répondit Florette. « D'abord le voyage, 2 mois en mer. » « Et dans quelle société ?» ajouta Julie. Puis Cora. « Ensuite, un désert au bout du monde, parmi les serpents et les tigres. « Moi qu'une souris ferait évanouir ?» conclut Florette en frissonnant de tous ses membres. Marianne avait regardé alternativement chacune de ces malheureuses qui manifestaient ainsi leur douleur. « Ah oui » soupira-t-elle. « Cela doit vous épouvanter. »« Eh bien, et vous ?»« Moi, j'y serai loin des tentations qui m'ont perdu. » Et s'animant, « Il y a là-bas des ateliers, des fermes. Je travaillerai. »« Oui, avec le travail, je me ferai une vie nouvelle, une vie à l'abri de tout reproche, de toute condamnation. » Florette l'avait écoutée avec surprise. « Mais c'est odieux, une existence pareille » s'exclama-t-elle. « C'est épouvantable !» Puis changeant de ton. « On assure, il est vrai, ajouta-t-elle, qu'on trouve à se marier là-bas. Julie avait avancé la tête. « Oui, oui, on me l'a dit » fit-elle du ton léger et enjoué qu'elle prenait autrefois avec ses adorateurs. « Tant mieux !» déclara Florette avec sentiment. « Ça sera du moins quelqu'un sur qui l'on pourra se venger !» Marianne eut pitié de ces misérables créatures qui ne songeaient en ce moment qu'à l'existence matérielle. Elle rougissait, elle dont les idées s'étaient si rapidement et si heureusement modifiées, au spectacle du désespoir de ses filles, arrachées à leur vie de débauche et de luxe, et dont l'unique regret était de ne pouvoir plus comme autrefois s'y adonner entièrement. Elle eût voulu rencontrer, chez ses réprouvées, une étincelle de raison, qu'elle eût ravivée par ses conseils, par le récit touchant des émotions bienfaisantes qu'elle avait ressenties à partir du moment où elle s'était décidée à rentrer dans le droit chemin. Néanmoins, faisant taire en son esprit le dégoût que lui inspirait cette persistance dans le vice, elle essaya de consoler. « Peut-être, dit-elle, ne partirez-vous pas ?»« Oh, si cela pouvait être !» soupira Julie. « Que faut-il faire pour cela ?» s'informa Florette en appuyant avec familiarité sa main sur le bras de Marianne. « Si vous connaissez le moyen, insista à son tour la belle Cora, indiquez-nous-le. Montrez-vous soumise, fit Marianne. Prouvez que vous êtes repentante, et je crois qu'alors la supérieure s'intéressera à vous. Quoi ? La supérieure d'ici ? Oui, je puis presque vous l'affirmer, car j'ai pu juger par tout ce qu'elle a fait pour moi que son âme compatit à toutes les douleurs sincères. Elle vous a protégée, déjà ? Marianne leva la tête et ses yeux s'attachèrent sur une religieuse qui arrivait en ce moment dans la cour. « La supérieure !» prononça Florette en indiquant du regard celle qui venait d'apparaître. « N'est-ce pas elle qui sort de l'infirmerie ?»« Oui, c'est elle, mesdemoiselles, c'est sœur Geneviève. Elle vient de soigner les malades, et maintenant elle va consoler les affligés. » En ce moment, en effet, la supérieure s'approchait du groupe de femmes qui causaient entre elles, donnant les signes de la plus sombre tristesse. Pour chacune de ces malheureuses, sœur Geneviève eut une parole de consolation. Puis la supérieure les avait quittées pour courir à d'autres qui sanglotaient, isolées dans l'allée d'arbres couverts de givre. À celles-là, elle adressait la parole avec bonté, insistant pour qu'elles misent un terme aux larmes qui inondaient leurs visages. Elle s'apitoyait si visiblement que Florette ne put s'empêcher de dire « Tiens, pour une femme si vertueuse, elle n'a pas l'air d'être trop méchante ?» Marianne regarda sœur Geneviève avec une expression de reconnaissance qui perçait dans ses yeux. « Ah » fit-elle, répondant à la courtisane, qui s'étonnait de la douceur et de la familiarité que la supérieure témoignait aux détenus. « Que ne lui dois-je pas ?»« Vous ? Oui, mesdemoiselles. Quand on m'a amenée ici, sœur Geneviève a eu pitié de ma souffrance, de mes erreurs. Elle m'a conseillée, encouragée, et sa parole était si douce que peu à peu, en l'écoutant, j'ai senti se réveiller dans mon âme des sentiments que je croyais éteints. L'espérance et la foi. » La détenue était émue en parlant ainsi, et son émotion se communiquait à présent à toutes ces créatures perverties. Elle regardait la supérieure avec respect, avec admiration. Marianne était heureuse de l'effet que ses paroles produisaient sur ses co-détenues. « Tenez, ajouta-t-elle en montrant les sœurs de charité, qui, en ce moment, se promenaient ou se dirigeaient vers l'infirmerie, pour porter des remèdes et des tisanes aux malades. Tenez, mesdemoiselles, quand je voyais ces femmes si pures, si indulgentes, si dévouées et si humbles, s'agenouiller le soir comme de pauvres pécheresses, elles qui n'ont que des vertus. Quelle miséricorde puis-je attendre ? M'écriai-je, moi qui suis si coupable. Eh bien, et moi donc ? Interrompit Florette. Marianne ne la laissa pas achever. Mais je sais, continua-t-elle, grâce à tout ce que l'on m'a dit ici, grâce au conseil de ces anges, je sais à présent qu'on peut effacer le passé. Je sais que chaque bonne action peut racheter une faute. » Les courtisanes faisaient des signes de doute, et Florette, dans un élan de franchise, soupira. « Ce qu'il m'en faudrait tant à moi, de bonnes actions pour racheter toutes mes fautes. Je ne vivrai jamais assez vieille pour que ça se balance. Non, jamais, j'en suis bien sûre, et je mourrai sans être au pair. » En ce moment, la conversation des détenus fut interrompue par un grand mouvement qui s'opérait dans la cour. Tous les regards s'étaient tournés vers la grille qui venait de s'ouvrir. C'était le médecin qui entrait. Aussitôt qu'elle l'eut aperçu, Sœur Geneviève avait mis un grand empressement à aller au-devant de lui. « Ah, docteur, lui dit-elle, avec quelle impatience je vous attendais. « Je ne suis pourtant pas en retard, répliqua le médecin en regardant sa montre. « Voyez plutôt. » Le savant praticien avait, en parlant ainsi, un air de satisfaction empreint sur le visage. Ses yeux souriaient presque. Mais la supérieure était sous le coup d'une si grande anxiété qu'elle ne s'aperçut pas de ce jeu de physionomie qui l'eût bien rassurée. Elle tendit la main à son vieil ami en lui disant d'une voix tremblante « Vous m'avez fait espérer qu'en venant ce matin… »« Je vous apporterai… » »« Une bonne nouvelle !» fit sœur Geneviève en levant ses yeux anxieux et inquiets sur son interlocuteur. Le médecin la regarda avec une expression de compassion douce et de sincère admiration. « Et de là, dit-il, cette émotion, cette impatience ?» La supérieure baissa les yeux et sa voix s'assourdit tout à coup pour répondre. « Docteur, il s'agit, vous ne l'ignorez pas, du sort d'une de ces pauvres infortunées. Dont vous êtes la Providence. Oh, je sais que vous seriez plus calme s'il était question de vous-même. » Sœur Geneviève fit un geste pour interrompre cet éloge qu'on adressait ainsi à brûle-pourpoint et tout haut à son inépuisable charité. Elle rougit légèrement. Et revenant au sujet qui l'intéressait. « Enfin » interrogea-t-elle avec une vivacité qui était bien peu dans ses habitudes. Le médecin jugea qu'il y aurait cruauté à ne pas rassurer immédiatement celle qui se montrait si impressionnée. Il reprit, s'animant au fur et à mesure qu'il parlait. « Enfin, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. J'ai dit l'intérêt que vous inspire cette pauvre pécheresse. J'ai parlé de son profond repentir, je l'ai montré soumise et résignée. J'ai même ajouté quelques bonnes qualités de mon cru, dit-il avec un malin sourire. Mais le visage de la supérieure prit une expression sérieuse. Elle condamnait le dernier moyen que l'excellent homme avait cru bon d'employer pour exciter la compassion en faveur de celle qu'il s'agissait de sauver. « Vous avez eu tort, docteur, » prononça-t-elle d'un ton presque sévère. « Il fallait dire la vérité seulement. » « Oui, la pure et sainte vérité, comme vous l'appelez. » « Mais c'était pour sauver votre protégé. » Sœur Geneviève n'admit pas cette excuse. Rigide comme elle l'était, elle se trouvait complice du pieux mensonge que son amie avait jugé à propos de faire. Ce détail gâtait le plaisir qu'elle avait éprouvé en voyant arriver le docteur qu'elle attendait avec une si fiévreuse impatience. « La vérité d'abord, » reprit-elle après une seconde de pénible silence. « La vérité en toute chose et avant toute chose. » Puis, s'apercevant que son interlocuteur gardait le silence et témoignait d'un peu de gêne dans son attitude, elle s'empressa d'ajouter « Mais achevez, je vous en prie. » Le docteur retrouva toute sa bonne humeur. Il sourit et continua « Remerciez-moi donc, ma sœur. » « Vous avez réussi ?» demanda vivement sœur Geneviève en joignant les mains comme pour remercier la Providence. « Complètement !» La supérieure eut une exclamation de joie extatique. « Ah, Dieu soit loué !» s'exclama-t-elle. L'émotion lui coupait la parole. Elle tourna les yeux vers Marianne, qui, comme les autres, s'était peu à peu rapprochée des deux personnages, attendant le moment de saluer, au passage, le médecin lorsque celui-ci quitterait la supérieure pour se rendre à l'infirmerie. C'était l'habitude, parmi les détenus, de témoigner ainsi de leur reconnaissance pour ce praticien célèbre qui avait sollicité d'être leur médecin à elle, les réprouvés. Marianne se doutait qu'il s'agissait d'elle, car tout en parlant, sœur Geneviève avait dirigé à plusieurs reprises des regards de son côté. Ce ne fut donc pas sans une vive émotion qu'elle s'entendit appeler. Sœur Geneviève lui disant « Venez, venez mon enfant. Voici notre cher docteur, l'excellent homme que vous connaissez et que vous apprendrez à aimer autant que vous le respectez déjà. » La voix de la digne femme chevrotait. Elle dut faire un effort pour continuer en désignant le médecin. Apprenez de lui-même ce qu'il vient de faire pour vous. Marianne avait fait un pas vers celui qu'on lui désignait. « Pour moi, monsieur ? » balbutia-t-elle. « Oui, pour vous. Mais c'est sœur Geneviève qu'il faudra remercier. C'est elle qui, touchée de votre repentir, a eu l'idée de solliciter votre grâce. Et je vous l'apporte. » Prononçant ces mots, le docteur avait repris dans sa poche un pli cacheté de cire rouge. Il le remit très ostensiblement à la supérieure, de façon à ce que toute l'assistance pût le voir. En outre, il avait élevé la voix dans le but d'attirer l'attention de toutes les détenues, dont quelques-unes jouaient et couraient dans les allées. Aussitôt, elles étaient accourues, formant le cercle autour des personnages qui parlaient à Marianne. Mais le silence le plus profond était observé. Chacune d'elles regardait la supérieure dont le visage rayonnait de bonheur. Elles demeurèrent stupéfaites et profondément remuées lorsqu'elles virent Marianne se jeter aux genoux de sœur Geneviève en s'écriant « Ma bienfaitrice, ma mère !» Toutes s'étaient rapprochées. Bien des cœurs devaient battre en ce moment à la vue de leur compagne prosternée et remerciante avec effusion, les yeux remplis de douces larmes. Très émue, sœur Geneviève se défendait d'avoir mérité les remerciements que lui adressait sa protégée. Elle désignait d'une main tremblante le docteur à la reconnaissance de Marianne. « C'est lui, dit-elle, lui qui a fait toutes les démarches, lui seul, mon enfant !» Mais le docteur avait à cœur de préparer la petite apothéose qu'il voulait improviser à sœur Geneviève. Il se tourna donc vers Marianne, toujours prosternée, la releva et la conduisant en face de la supérieure. « Oui, dit-il, j'ai fait les démarches. Et c'est à elle qu'on a tout accordé. À sœur Geneviève, à la noble et digne femme qui, née à la Salpêtrière, n'a jamais consenti à en franchir le seuil, qui a fait de cette prison sa patrie, de toutes les affligées sa famille. » Puis, s'adressant directement à la religieuse, « À vous, la consolatrice des réprouvés, des coupables repentis, à vous que tout le monde ici respecte, vénère et chérit. » Obéissant au regard que leur adressait le docteur et qui se trouvait si bien d'accord avec la grande émotion qu'elles éprouvaient, toutes les détenues avaient rétréci le cercle autour de la supérieure. Elles étaient maintenues par le respect qu'elles professaient pour la religieuse, sans quoi elles n'eussent pas hésité à lui faire une brillante ovation. Le médecin jugeait que l'émotion avait gagné tous les cœurs, car nombre de détenus contenaient à peine leurs larmes prêtes à jaillir. Il vit que la supérieure elle-même n'avait pu se contraindre et que des perles humides tremblaient au bout de ses cils. « Je ne dis pas cela pour vous faire de la peine, pour vous faire pleurer, » ajouta-t-il. « Ni vous, ni cette pauvre Marianne, ni les autres, ni... » Et s'interrompant pour porter vivement les mains à ses yeux, « Bon, allons bien, voilà que ça me gagne aussi. » Les détenues rompirent alors le cercle dans lequel elles avaient peu à peu enserré la supérieure. Elles se précipitèrent comme des enfants sur la religieuse. Les unes lui baisaient les mains, les autres prenaient le bas de sa jupe de bure ou les manches de sa robe pour les porter à leurs lèvres. Toutes se disputaient doucement à qui arriverait le plus près de la sainte femme pour lui manifester son respect, son admiration. Chacune voulait obtenir un regard de sœur Geneviève. Et, impressionnée plus qu'il n'aurait voulu le paraître, la voix mouillée, le bon docteur regardait toutes ces malheureuses qui collaborait avec lui à la scène si touchante qu'il avait provoquée. Il balbutiait lui aussi, et ses mots sortaient entrecoupés de ses lèvres tremblotantes. « C'est égal, il y a encore du bon dans toutes ces coquines-là !» Au plus émouvant de cette manifestation improvisée, la cloche de l'atelier sonna la fin de la récréation. Les détenus se mirent promptement, comme d'habitude, sur deux rangs pour retourner au travail. Sœur Geneviève fut heureuse de cet incident qui allait lui permettre de se dérober enfin à toutes ces marques d'affectueux respect qu'on lui prodiguait. « Voici l'heure de rentrer, » dit-elle à Marianne, qui demeurait clouée à la même place, les regards rivés sur sa bienfaitrice. « Allez, chère enfant, ce soir, vous serez libre. N'oubliez pas alors que j'ai répondu de vous. » Et d'un ton où perçait une imperceptible pointe de juste fierté, « La société m'avait envoyé une coupable, » ajouta-t-elle. Je lui rends une honnête fille. N'est-il pas vrai, Marianne ? La pauvre créature, touchée de ces paroles, balbutia en courbant le front devant la religieuse. Je l'espère. Je le crois, ma sœur. Tout à coup, comme les détenus se mettaient en marche, se dirigeant vers les ateliers, un grand bruit se fit entendre venant de l'infirmerie. Des cris de femmes éclataient, violents et se succédant sans interruption. La supérieure et le docteur s'étaient tournés du côté d'où provenaient ces cris. Marianne s'était également arrêtée. Ses cris avaient dans son cœur un douloureux écho. Elle se prit à trembler. Sœur Geneviève avait, précipitamment, fait quelques pas vers l'infirmerie en disant « Que se passe-t-il donc ?» Le docteur avait essayé de la rassurer par ces mots. « Quelque malade insoumise, je vais y mettre ordre. » mais la supérieure avait jeté un regard vers le groupe qui se présentait en ce moment à l'entrée du couloir conduisant à l'infirmerie. « Attendez !» fit-elle en retenant le docteur auprès d'elle. « Attendez, c'est la jeune fille que l'on a amenée ici il y a 2 jours. » « Et qui a été prise ensuite d'un accès de délire ?»« Oui, docteur. C'est cette malheureuse au chevet de laquelle vous avez passé plus d'une heure, écoutant les propos incohérents qui s'échappaient de ses lèvres. » À ce moment, celle dont il était question s'élançait dans la cour, malgré les infirmières qui faisaient de vains efforts pour la retenir. La pauvre enfant les repoussait, trouvant pour cela une force irrésistible dans l'excès de sa douleur. Henriette criait « Ne me retenez pas, je veux sortir, je veux m'en aller, vous dis-je » Marianne avait lancé un regard sur la jeune fille qui manifestait cette violente douleur. Et la reconnaissant, elle s'exclama « Ah mon Dieu, mais c'est elle !» La voix expira sur ses lèvres. La jeune fille avait réussi à se débarrasser des infirmières qui l'avaient maintenue jusque-là. Elle courait vers sœur Geneviève.